France Culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, patrimoine, spectacle, visites et initiatives. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Quel rapport trouveriez-vous entre Game of Thrones, Les Malheurs de Sophie, Orgueil et Préjugés, la bande dessinée 13 ou encore Harry Potter? À première vue, pas évident. Mais tout de même, un mot. Le plaisir de lire, de s'évader, de rêver ou de trembler. Et un autre mot aussi, culte, des œuvres cultes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Angers accueille les 27, 28 et 29 septembre, dans le magnifique cadre de l'hôpital Saint-Jean, dans la Doutre, la première édition d'un festival totalement innovant, le festival Cultissime. Cultissime, c'est beaucoup plus qu'un salon littéraire habituel. La programmation est aussi variée et éclectique que les œuvres présentées. On y verra des écrivains, bien sûr, des scénaristes, mais aussi Goldorak, en vrai, ou des scènes de KPDP. Cultissime, ce sont 3 jours d'immersion au cœur des romans, des bandes dessinées, comics, mangas et adaptations multimédia qui nous ont marqués ou qui nous marqueront. En bref, une immersion dans des œuvres cultes pour retrouver le plaisir de lire. Alors on y va avec une des créatrices du festival, Phalène Baudin-Lavalette. C'est parti pour 30 minutes ensemble. Pour découvrir cet événement si innovant, le festival Cultissime, nous avons contacté par téléphone l'une des 3 fondatrices, Phalène Baudin-Lavalette. Phalène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes initialement journaliste, vous étiez rédactrice en chef du Point Pop. Vous vous êtes lancée, je crois que vous êtes lancée à 3, avec enthousiasme dans cette aventure. Alors, avec qui et pourquoi?
Alors, le festival Cultissime est porté effectivement par 3 cofondatrices, 3 femmes, donc moi-même, Armelle Galineau, qui est une strasbourgeoise, et Julie Malor, qui travaillait autrefois avec moi au Point, le journal Le Point. On a toutes les 3 quitté nos emplois pour se consacrer à 100% au montage de cette première édition. Et pourquoi? Eh bien, parce que on avait cette intuition et cette envie de trouver une façon de lire à nouveau, puisque ça se perd un petit peu l'idée de lecture, l'idée de littérature avec la notion de plaisir, puisqu'on constate aujourd'hui que de moins en moins de gens lisent, qu'on lit de moins en moins longtemps.
Oui, c'est quoi le temps de lecture quotidien? Moyen.
Le temps de lecture quotidien, alors selon, il y a différentes études, hein, mais si on prend l'étude, disons, la plus alarmante qui a été faite au niveau européen, on est sur un temps de lecture moyen en Europe de 10 minutes et sur un temps de lecture moyen en France de 2 minutes. 2 minutes par jour contre environ 2h30 sur les réseaux sociaux, les écrans. Donc, effectivement, c'est un chiffre qui alarme. Et puis surtout, c'est un chiffre au-delà des chiffres. Ce qui est intéressant et ce qui est alarmant, c'est surtout que c'est une baisse continue depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas on peut regarder tous les chiffres, quels qu'ils soient. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres. Mais dans tous les cas, il y a une baisse depuis 20 ans et un décrochage notamment auprès des plus jeunes.
Donc, renouer avec le plaisir de la lecture. Mais alors, c'est quoi une œuvre culte? Parce qu'il y a les best-sellers, les classiques, on les a tous étudiés à l'école. Des textes ou des héros qu'on peut qualifier de fondateurs d'une culture, on peut penser à Homère, mais évidemment à plein d'autres. Et dans tout ça, c'est quoi une œuvre culte?
Alors, je pense que dans la notion de culte, il y a effectivement cette notion de ferveur populaire. On a des œuvres qui sont connues et reconnues dans le monde entier, donc par un certain nombre de personnes. Et puis, mais c'est pas seulement des best-sellers, c'est parce qu'il y a aussi une dimension d'exégèse et de prosélytisme, si je puis dire. Quand vous êtes amateur d'une œuvre, quand vous considérez que c'est votre œuvre culte, eh bien, généralement, vous renseignez énormément dessus, vous connaissez tout par cœur, vous êtes capable de citer des passages, vous êtes capable vraiment de prêcher presque sur cette œuvre, parce qu'en plus, vous avez envie de convertir les autres à cette œuvre culte et que ça devienne à leur tour une œuvre culte. facile pour eux. Et donc, il y a vraiment cette notion de partage. Et puis, l'autre dimension intéressante du mot culte, c'est que c'est à la fois une notion très universelle. Donc, on sait par exemple que les Trois Mousquetaires est une œuvre culte dans le monde entier, c'est une référence. Même si vous, personnellement, vous n'aimez pas cette œuvre-là, eh ben, vous ne pouvez pas nier que c'est une œuvre culte. Et en même temps, il y a une notion très individuelle, très personnelle de l'œuvre culte, puisque chacun a son propre panthéon d'œuvres cultes. Le vôtre ne sera pas le même que le mien. Et généralement, on a envie de partager son propre panthéon d'œuvres cultes auprès des autres.
Alors, c'est quoi, vous, votre œuvre culte, Falaine?
Alors, mon œuvre culte à moi, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est une œuvre que j'ai lue quand j'avais 12-13 ans, qui m'a complètement renversée, que j'ai trouvée d'une profondeur et d'une capacité à nous embarquer incroyable, que j'ai peu retrouvée ensuite dans d'autres œuvres. Et puis, surtout, ce que je trouve magnifique dans Le Seigneur des Anneaux, c'est cette notion, finalement, d'espoir, d'espérance, dans un monde où tout va mal. Et parce que quand on connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux, bon, on sait que grosso modo c'est la fin du monde, quoi. Oui. Et qu'il y a quasiment aucun espoir que ça change. Et finalement, ce sont les actes presque insignifiants du quotidien qui changent la donne. Et c'est un peu cette notion-là que je trouve très intéressante, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre le parallèle sur notre monde à nous, où beaucoup de choses vont mal, où on parle de réchauffement climatique et de catastrophes, etc. Et finalement, on pourrait se dire, bah, tout ça, c'est impossible de lutter. Et ce que montre Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment ça, c'est que les actes qu'on pose dans notre quotidien, qui sont des actes bons, même s'ils paraissent insignifiants à notre auteur, sont des actes qui peuvent renverser le cours des choses.
Alors, vous parliez de prosélytisme avant, vous le faites très très bien. Vous écoutez, on a envie de le lire. Alors, il y a beaucoup beaucoup de propositions dans ce festival, des dédicaces, des rencontres, des ateliers, de l'escrime même, des food trucks, c'est foisonnant. On va essayer d'en parler, on ne pourra pas parler de tout, mais on va essayer d'en parler au fur et à mesure. Mais œuvres cultes, on pourrait penser effectivement œuvres anciennes qui ont déjà fait leurs preuves, des œuvres établies, mais vous vous inscrivez aussi résolument dans le présent et dans l'avenir, puisque vous remettez des prix pour des œuvres récentes, 4 prix. Alors, vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, c'était important pour nous de montrer que l'étude du culte ne dit pas forcément passé il y a très longtemps. L'idée aussi, c'était de parier sur les œuvres cultes de demain. Et donc, ces prix, il s'agit un petit peu de parier sur l'avenir et de dire, voilà, dans tout ce qui paraît aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui paraissent, c'est peut-être un peu trop, ce qui potentiellement va rester. Voilà ce en quoi on croit, comme étant des œuvres qui valent la peine, en tout cas, de rester dans vos bibliothèques, de rester dans les librairies. Et c'est un petit peu l'objet de ce prix-là.
Alors, donc, il y a eu 10 œuvres sélectionnées pour les 4 catégories. Hein. Donc, il y a le livre cultissime, la bande dessinée cultissime, la réédition cultissime et l'adaptation cultissime. Comment le choix, prenons un exemple, par exemple, pour les livres cultissime, comment le choix a été fait? Le choix initial de la préliste pour lesquelles tout le monde a pu voter?
Oui, alors c'est simple, on a travaillé, donc l'équipe cultissime qui compte une vingtaine de personnes, tous avec des spécialités différentes, il y a des spécialistes du polar, des spécialistes de la BD, etc. Donc déjà, en plus on a des libraires aussi qui participent, et donc on a tous un petit peu été garder notre radar allumé pour détecter un petit peu les œuvres qui sortaient du lot dans ce qui paraissait. On s'est aussi beaucoup appuyé sur les éditeurs en leur demandant, voilà, dans tout ce que vous faites paraître cette année, est-ce que si vous deviez garder une œuvre, ce serait laquelle? Et puis ensuite, une fois qu'on a arrêté cette pré-liste des œuvres, on l'a soumise au vote de l'Académie cultissime, qui est ouverte à tous, professionnels et grand public. Et cette académie a arrêté 5 titres qui ont été soumis durant tout l'été au vote, là encore une fois, de tout le monde, pour déterminer les gagnants.
Alors, je vais laisser les auditeurs regarder sur le site hein, la liste, mais quand je l'ai lue, j'aurais envie de dire que vous proposez effectivement une découverte plaisir, mais qui n'est pas élitiste, contrairement à peut-être beaucoup de tendances, de salons et de prix. Est-ce que je me trompe ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on cherche en tout cas à trouver des œuvres qui donnent avant tout, et c'est peut-être le critère principal, l'envie de lire et de continuer à lire. Et donc, finalement, peu importe le format, le genre, si c'est une bande dessinée jeunesse ou adulte, si c'est très littéraire ou pas du tout, ce qui compte, c'est que le livre vous embarque et vous donne par la suite envie de continuer à lire. Et donc, ça a été vraiment le facteur qui nous a guidés, et ça nous permet d'avoir aussi bien des romans jeunesse comme Alba de Timothée de Fombelle ou des romans comme Les Sept Sœurs, le cycle des Sept Sœurs qui a embarqué des millions de lecteurs à travers le monde. Voilà, c'est vraiment le critère principal.
Alors, quand on voit effectivement tous les styles, et je les ai cités un petit peu au début, on se dit, mais tout ça, c'est un drôle de melting pot. Mais vous dites qu'il y a des ponts, des liens entre beaucoup d'œuvres cultes. Est-ce que vous pouvez l'illustrer ?
Oui, c'est vraiment l'objet de ce festival, c'est de montrer que finalement toutes ces littératures se parlent et communiquent entre elles. Pour vous donner un exemple, Alain Hérol, qui est l'un des parrains de cette première édition, est auteur d'une saga de bande dessinée très populaire qui s'appelle De Cap et De Croc. Si vous lisez De Cap et De Croc, ou même simplement si vous regardez les couvertures, vous verrez mille et un clins d'œil à la littérature classique. Pour n'en citer que quelques exemples, Cyrano de Bergerac, Molière, les Fourberies du Capin, le Cid, enfin vraiment il va puiser un petit peu partout. Et puis si on prend sa dernière œuvre qui s'appelle De l'ombre à la lumière, et bien là on est quasiment sur les liaisons dangereuses de Laclos, et donc il va vraiment picorer dans la littérature classique pour injecter des références, des petits clins d'œil, etc. Un autre exemple, là encore en bande dessinée, Alex Alice, qui a écrit Le Château des Étoiles, qui est un cycle de bande dessinée jeunesse très très populaire, qui fête ses 10 ans cette année, et bien Le Château des Étoiles, c'est complètement l'univers de Jules Verne. Alors un Jules Verne imaginé à l'époque de la Prusse, avec des vaisseaux qui volent jusqu'à l'espace, etc. Donc on pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais en fait, vraiment, c'est très Jules Vernien, et d'ailleurs lui-même dit que son œuvre culte, c'est Un milieu sous les mers, et il va nous expliquer lors du festival quels sont ses liens justement avec Jules Verne. Donc on voit que vraiment il n'y a pas de barrière entre tous ces genres, au contraire, et que plus on se nourrit d'une œuvre, plus on va en découvrir d'autres, et ainsi de suite. Et c'est vraiment l'objet de ce festival, c'est de vous donner envie. Vous venez au départ parce que je ne sais pas quel auteur vous intéresse ou quelle œuvre, quelle conférence sur une œuvre que vous aimez particulièrement. Et puis notre objectif et notre espoir, c'est que au cours de ce festival, du coup, vous découvriez plein d'autres œuvres que vous avez envie de découvrir.
On reprend notre souffle avec une petite pause musicale avant de retrouver Falaine Baudin-Lavalette, une des trois fondatrices du Festival Cultissime, qui aura lieu, je le rappelle, à l'hôpital Saint-Jean, les 27, 28 et 29 septembre. On évoquera dans cette deuxième partie notamment les invités, qui vous le verrez sont impressionnants, et le programme. On a choisi pour cette pause la musique d'un film cultissime s'il en est, Harry Potter, le morceau Nimbus 2000, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Prague.
Sous toutes ses coutures.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Franche Culture et on retrouve notre invitée Phalène Baudin-Lavalette, une des trois créatrices du festival Cultissime qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre à Angers. On va parler maintenant du programme qui, vous allez le voir, est bien plus riche et innovant qu'un salon littéraire classique. On parlera aussi du monde de l'édition et des invités. Et pour une première édition, le festival a vu grand avec un plateau d'invités impressionnant, une soixantaine environ. Je ne peux pas tous les citer, mais citons Douglas Kennedy, Jean Van Hamme, Jean-Christophe Ruffin, Anne Goscinny, Camille de Peretti, Éric-Emmanuel Schmitt, etc. On écoute donc Phalène Baudin-Lavalette, toujours au téléphone, nous en parler.
Alors, on a effectivement beaucoup de très beaux auteurs. Donc, par exemple, Jean Van Hamme, l'auteur de 13, Thorgal, enfin, il y en a énormément. Douglas Kennedy, James Ellroy, etc. Olivia Ruiz. Alors, chaque auteur, on fait vraiment du sur-mesure en fonction des envies des uns et des autres. Donc, par exemple, Olivia Ruiz et Mathias Malzieu, Mathias Malzieu va faire un concert lecture. Il va être rejoint par Olivia Ruiz. Et donc, voilà, c'est vraiment très spécifiquement construit pour ça. On va avoir le lancement du nouveau Capitaine Flamme en compagnie de Goldorak et des Chevaliers du Zodiac. Alors là, on est vraiment sur une toute autre configuration. On peut avoir, quand James Ellroy vient ou quand Sylvain Tesson vient, on est sur quelque chose de plus intimiste. Et donc, Sylvain Tesson, par exemple, va nous livrer un petit peu ses clés. Alors lui-même a un fil de cuillère rencontre la poésie de la route des Beatles au Beatnik, et de Jack Kerouac à tout ça. Donc voilà, il va nous évoquer un petit peu tout ça. Vraiment, ça dépend beaucoup des auteurs. Michel Hazanavicius, qui lui pour le coup n'est pas un écrivain, mais un cinéaste, le réalisateur d'OSS 117, oui. Et de The Artist, notre premier réalisateur français oscarisé, si je puis dire, lui vient nous parler de son travail d'adaptation en film d'animation d'un livre qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, qui raconte la Shoah d'un point de vue assez difficile. Et donc, comment adapter une œuvre comme ça dans un format qui est pas aisé, l'animation. Voilà, donc toutes ces choses-là prennent place dans le festival et finalement vous donnent la possibilité de trouver forcément quelque chose qui vous plaira.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre programmation, c'est que vous avez donc des grandes pointures du cinéma, de la littérature, mais aussi des ateliers et que vous faites intervenir des acteurs et des associations locales d'Anjou. Vous vous ancrez dans le territoire en même temps.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était quelque chose de très important pour nous. On ne voulait pas simplement des rencontres et des dédicaces. On voulait qu'il y ait une dimension très festive et pleine d'animation. Notre objectif, c'est que le festival soit vraiment un moment familial et amical, que vous puissiez venir avec toutes les gammes d'âge, si je puis dire. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur toutes les associations locales, tout le tissu local très actif d'Angers, pour proposer différentes formes d'animation. Donc, par exemple, on va avoir une association, l'association des 3L, qui est spécialisée dans la lecture à haute voix, qui va prendre en charge tout un tas d'ateliers de lecture à haute voix, à la fois de l'initiation à la lecture à haute voix comme école d'éloquence, ou bien tout simplement une petite animation autour des contes du Père Castor et une chasse au trésor. On a aussi l'école des films du génie. Pardon, l'école du génie avec l'association d'escrime qui vient nous faire une initiation à l'escrime avec Cyrano et D'Artagnan.
Oui.
Et vous allez voir que c'est assez drôle parce qu'ils vont vraiment déclamer des vers tout en se battant au fleuret. Voilà, il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui sont proposées par. Et on a été hyper, très très heureux de voir que tout le monde répondait présent à l'appel, que tout le monde avait envie de construire quelque chose avec nous et c'est grâce à ça que cette programmation est possible.
Oui, c'est foisonnant, j'ai pas d'autres mots parce qu'en fait c'est extrêmement divers comme programmation et je pense qu'effectivement tout âge peut retrouver son compte. Je voudrais revenir à quelque chose que vous avez dit au début, que le temps de lecture moyen devenait très faible en France puisque c'est le nerf de la guerre de ce festival. J'avais juste une question, une interrogation. N'est-ce pas lié à une offre littéraire trop grande? Est-ce que le lecteur n'est pas perdu face à la masse de propositions de livres qui arrivent tous les ans en septembre ou en janvier?
Alors, il y a beaucoup de raisons qui expliquent la baisse du temps de lecture. La première, c'est la concurrence des écrans. Il y a aussi d'autres facteurs, mais effectivement, il est certain qu'on constate une surproduction littéraire dans toutes les gammes, si je puis dire, aussi bien la bande dessinée que le livre, etc. Et que quand on n'est pas un lecteur habitué, ou même quand on l'est d'ailleurs, on peut se sentir un peu perdu dans tout ce qui paraît, ne sachant pas quoi apprendre ou étant parfois déçu de ce qu'on prend. Et cela, c'est aussi pour ça un petit peu que ce festival existe et que les prix littéraires et cultissimes existeront, pour peut-être aider aussi à mieux discerner les lectures potentielles qu'on va vouloir faire. Mais malheureusement, c'est un état de fait qui est un petit peu dû au système éditorial aujourd'hui. C'est que l'éditeur, pour pouvoir disons rembourser les livres qui n'ont pas été vendus et qu'il doit rembourser au libraire, va souvent se dire je vais publier d'autres livres qui vont m'être achetés et grâce à ça je pourrai rembourser. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu une course en avant qui n'est pas saine, mais beaucoup d'acteurs du secteur s'en rendent compte aujourd'hui et appellent justement à plus de frugalité et de voilà. Mais je pense que c'est dans l'édition comme ailleurs, c'est un constat qu'on fait tous d'un excès de production, de consommation qui a été fait et petit à petit on s'en rend compte, la prise de conscience vient et des actions sont menées pour essayer de restreindre ça.
Un excès d'offres, c'est un phénomène global de notre société. Pour revenir au festival, est-ce qu'il y a d'autres événements, animations dont vous voudriez parler, dont on n'aurait pas parlé avant de conclure?
Alors, d'autres événements. Eh bien, on a déjà une journée scolaire le vendredi qui est proposée sur inscription à des 8 classes de secondaire et 8 classes de primaire. C'est assez facile, c'est très riche. C'est une programmation. Vraiment, on a essayé de faire en sorte que chaque classe puisse goûter à différentes façons d'approcher la littérature, que ce soit le jeu, le spectacle, l'atelier plus pédagogique, en phase avec les programmes scolaires. Et en même temps, on savait que la date du festival ne permettait pas de beaucoup préparer en amont, donc il ne fallait pas donner trop de travail aux professeurs. Donc on a conçu quelque chose de clé en main. Et il suffit, il y a encore de la place, donc tout professeur qui serait intéressé peut nous contacter pour se renseigner et s'inscrire. Et on serait vraiment très heureux de recevoir toutes ces classes, parce que c'est aussi pour elles qu'on fait ça.
Oui, c'est la cible principale, c'est la cible de l'avenir. Dernier petit point, le festival est payant. Je donnerai tous les prix en fin d'émission. Pourquoi un festival payant? Quelles ont été vos contraintes?
Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi est-ce que ce n'est pas gratuit comme beaucoup de salons du livre? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut assurer l'avenir de ce festival ou d'autres d'ailleurs. Aujourd'hui, en France, il est de plus en plus difficile pour une association de vivre uniquement de subventions. Ça met en péril son avenir généralement, car les subventions sont toutes en baisse. Et donc, pour nous, ça a été très vite l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre financier qui nous permettra chaque année de proposer une aussi belle programmation, voire encore plus belle l'année prochaine. Et donc, il nous fallait trouver un tarif qu'on a essayé de fixer au plus bas. On espère qu'entre les tarifs famille, les tarifs réduits, les passes, etc., chacun pourra s'y retrouver. Et puis, on pense aussi que le prix qu'on fait payer permettra aussi à toutes ces animations, à toutes ces choses qui sont proposées. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est que les associations qui prennent part, on les rembourse de façon à ce qu'elles n'aient aucun frais sur le festival. Alors, elles ne gagnent pas d'argent, c'est des associations, mais elles ne doivent pas en perdre non plus. Donc, il y a quand même des coûts. Et voilà, tout ça le fait qu'on est obligé, entre guillemets, de facturer un billet d'entrée. Ça sera la condition et la garantie d'un avenir pour ce festival.
Merci à Phalène Baudin-Lavalette pour cette interview. Avant de conclure et de vous donner tous les renseignements pratique. Un petit clin d'œil avec Superman, Superman de 1978 par John Williams. Voilà une œuvre culte s'il en est, cultissime, le festival cultissime, c'est à Angers, dans le merveilleux cadre de l'hôpital Saint-Jean. Il a lieu les 27, 28 et 29 septembre. Le tarif est de 12 euros, 8 en tarif réduit, notamment jusqu'à 16 ans inclus. Il y aura aussi des passes famille et des passes 3 jours, donc à consommer sans modération. Vous trouverez tous les renseignements sur le site cultissime.org. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et surtout, n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux, sans modération. Très très belle semaine à tous.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.